Bonsoir mes frères et sœurs. Nous allons lire un texte, le début d'un texte, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, où nous voyons un homme qui était très bien et qui tout d'un coup passe un moment difficile. Est-ce que ça peut arriver ça? D'aller très bien et paf, en quelques heures de... Comment on dit aujourd'hui? Comment ils disent les jeunes? De? Vous êtes plus jeune? Ah c'est clair, ouais. Alors on va lire l'histoire de cet homme. 1 Roi chapitre 19 verset 1er. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne te fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Amen. Nous lirons la suite tout à l'heure. Mais quelle histoire merveilleuse! Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Nous voyons plusieurs textes dans la Bible où lorsque des gens sont fatigués, ils vont faire des prières que Dieu ne va pas forcément exaucer. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Vous êtes d'accord? Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on va demander à Dieu, il va nous le donner? Bien sûr que non. La preuve, c'est que là, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande, Élie? Il demande la mort, c'est une prière. Il dit, j'en ai marre, j'en ai assez, ça suffit, maintenant, je veux mourir. Est-ce que Dieu a bien fait de ne pas exaucer sa prière? Est-ce que Dieu aurait pu l'exaucer? Est-ce qu'il aurait pu le reprendre dans la foulée? Mais oui, bien sûr. Bon, heureusement que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Parce qu'il y a des prières qui sont dictées par le désespoir. Il y a des prières qui ne sont pas dictées par la foi, des prières de foi. On peut demander à Dieu certaines choses, ça dépend vraiment d'un acte de foi. Mais il y a des prières qui sont dictées par nos découragements, nos échecs, nos frustrations, nos peines, nos émotions, notre fatigue. Est-ce que vous avez remarqué des fois qu'on demande des choses, heureusement que Dieu ne les a pas exaucées? Vous êtes d'accord avec moi? Regardez par exemple dans la souffrance. Moi j'aime le livre de Job. J'aime beaucoup le livre de Job parce que il dit des choses. Regardez, juste un verset. Job, chapitre 6. Hier, je lisais le livre de Job. J'aime beaucoup ce livre. Parce que franchement, vous comprenez la souffrance des gens avec ce livre. Ou votre souffrance. Job, chapitre 6. Alors, on va lire que le verset 8. Oui. Le verset 8 et le verset 9. « Puisse mon vœu s'accomplir, et Dieu veuille réaliser mon espérance, qu'il plaise à Dieu... » Vous avez vu un peu sa prière, hein? Qu'il plaise à Dieu de m'écraser. Qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Oui, il y a des prières. Non? Vous ne trouvez pas que c'est des prières un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez lu le livre de Job? Mais non, mais franchement, il faut le lire. Il ne faut pas le lire. Il faut le méditer. Et à la fin, regarde, c'est bien quand même. C'est important par rapport à la façon dont Dieu nous perçoit. Regardez à la fin du livre. Moi, ce qui m'a étonné, ce n'est pas tellement les prières un petit peu difficiles de Job. C'est la fin. Regardez. Non, mais quand même, il y a des choses... Regardez quand même. Job 42, verset 7. Il faut comprendre ces choses. Pour que vous ne vous culpabilisiez pas lorsque vous souffriez. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel lui adressait ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Pardon ? Il a parlé avec droiture ? Vous avez vu comment il a parlé ? Oui ou non ? Cette souffrance qu'il exprime, parce que c'est une chose, vous savez, d'être des donneurs de leçons et dire si Dieu, si tu faisais ceci, et Dieu ci, et Dieu là, et ça n'est une autre de dire je souffre, j'en ai marre, j'en ai assez. Ailleurs, il dira, regardez quand il dit au chapitre, on pourrait passer la soirée, on pourrait le faire d'ailleurs, ce ne serait pas forcément mauvais. Job chapitre 10, regardez, j'en ai parlé dernièrement. Et Dieu dit non, il n'a pas parlé mal, il n'a pas parlé mal. Mon âme, qu'est-ce qu'il dit ? Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein ? Moi qui pensais que vous m'aimiez, ça me pisse après. Moi, je ne le serais pas dégoûté. Job, chapitre 10. Mon âme est dégoûtée de la vie. Vous vous rendez compte ? Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Qu'est-ce qu'on lui aurait dit, nous, à lui ? Ah, tu vas dans l'amertume, tu vas parler. Non, mais tu te rends compte, tu te dis chrétien. Mais on a besoin d'exprimer la souffrance. Oui ou non, il faut l'exprimer. On a besoin. Par contre, le mieux, c'est de l'exprimer à Dieu. Des gens parfois se comparent à David. Oui, moi je suis comme David, je dis ce que j'ai à dire. Oui, mais David, il le disait à Dieu. C'est bien de le dire aux autres, des fois. Ça fait du bien, des fois, de parler aux autres. Mais vous savez, Job, il parlait à Dieu. Et regardez ses prières. C'est vrai que ça fait peur, et en même temps, ça rassure. Je reviens à Élie. Élie, c'est un homme de Dieu. C'est quand même une pointure, Élie. Le prophète Élie, bon, c'est quand même quelqu'un. Eh bien, Dieu a bien eu raison de ne pas exaucer sa prière. Dieu nous aime trop pour répondre à toutes nos prières. Est-ce que vous le comprenez, ça ? J'espère que vous le comprenez. Comment Dieu a guéri Élie ? Alors, il faut lire la suite. Dieu l'a guéri avec sa pédagogie. Dieu lui a montré tout à nouveau son amour. Si nous voulons être guéris, quelle que soit notre fatigue, nos échecs, nos frustrations, nos prières qui n'en sont même plus, il est certain que la meilleure façon de guérir, c'est de redécouvrir l'amour de Dieu. Dieu ne lui fait pas de reproches. L'autre jour, j'ai fait allusion à Job. À Jacob. Quand Jacob fuit, pourtant Jacob, il avait trompé son père. Il a menti à son père. Il a magouillé avec sa mère pour tromper son frère. Et il est obligé de fuir. Dieu ne lui fait aucun reproche. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où on a besoin de reproches. Je pense qu'à des moments, c'est bien. Mais il y a des moments où on n'a pas besoin de reproches. On a besoin de savoir que Dieu ne nous abandonne pas, même si on s'est trompé. Vous pouvez prendre plein de textes, vous pouvez y aller. Et vous voyez qu'il y a une loi dans la Bible, c'est que dans nos luttes, dans nos combats, dans nos tempêtes, le Seigneur a le pouvoir de nous rejoindre. D'ailleurs, il a tellement bien fait que dans une tempête, il est venu lui-même en marchant sur l'eau pour les rejoindre, pour que nous comprenions une fois pour toutes que dans nos tempêtes, Dieu a le pouvoir de nous rejoindre. Le problème, ce n'est pas tellement que Dieu nous rejoigne. Le problème, c'est qu'on l'écoute. Est-ce que vous me suivez ? Nous sommes dit, Seigneur, viens, viens. Mais il pourrait nous dire, mais je suis là. Mais tu ne m'écoutes pas. Et là, nous le voyons, que Dieu, il sait exactement pourquoi on est fatigué. Tiens, pourquoi je suis fatigué ? Il était fatigué. Vous avez vu la première chose que Dieu fait avec Élie ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe de quoi ? Comment ? De son corps. De son corps. Dieu, il s'occupe de notre corps ? Ah bon ? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne à manger. Vous avez vu ? Vous ne trouvez pas ça merveilleux ? Non, vous ne me répondez pas. Non, mais c'est, j'avais bien quand même. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux ? Et Dieu a voulu que ce soit là, dans les Écritures, pour que nous comprenions bien que nous, on est là. Nous, en France, les Juifs, je sais qu'ils ont une culture du corps beaucoup plus sérieuse. Ils prennent soin de leur corps. Nous, en France, on est... Non, quand on est chrétien, le corps, ça n'a pas d'importance. Le corps, ils suivent. Moi, j'en ai payé les pots cassés. Mais Dieu, lui, il veut que nous prenions soin de notre corps. Pas que ça, parce que le culte du corps, c'est bien engagé en France, vous inquiétez pas. Les païens, ça, ils savent le faire. Mais les chrétiens, nous devons quand même ne pas oublier que nos esprits, même si nous sommes le temple du Saint-Esprit, vous êtes d'accord ? Le chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Nos temples, ils sont quand même dans des corps. Oui ou non? Et qu'il faut savoir en prendre soin. Et la première chose que Dieu fait, c'est qu'il prend soin de son corps. Ouais. Et mes frères et sœurs, faites attention à ne pas vous épuiser aussi physiquement. Ce n'est pas bon signe. Il lui dit rien, il dit « lève-toi et mange ». Il avait tout préparé, un gâteau, tac, tac, c'est bien. Non, vous ne trouvez pas cette délicatesse, vous ne trouvez pas que c'est bien? Non? Bon, c'est bien. En tous les cas, il attendait, Dieu, il savait qu'Élie n'était pas prêt. Il faut être prêt à entendre certaines choses. Est-ce que vous le savez qu'il faut être prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que nous sommes prêts à entendre certaines choses? Vous êtes sûr que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à entendre la vérité? Il y a des gens, dès qu'on leur dit la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Il y a des gens intelligents qui s'attachent et il y a des gens qui s'éloignent. Mais est-ce qu'on est prêt à entendre ce que Dieu a à nous dit? Peut-être qu'avant, eh bien, il faut qu'on se repose, comme c'était le cas pour Élisée. Faisons attention à notre emploi du temps. Il y a des choses qui peuvent vraiment nous fatiguer, le manque de sommeil. Vous savez, à cette époque-là, les gens, ils vivaient, il n'y avait pas d'électricité. L'électricité, c'est une bénédiction ou c'est pas une bénédiction? Mais est-ce que vous pensez que les gens se couchaient à 1h du matin en hiver? Ben non. Moi, j'ai lu plein de reportages. Les gens, l'hiver, ils se couchaient à 8h. Vous vous rendez compte? Les jeunes, ils se couchaient à 8h. Et l'électricité, c'est une bénédiction, mais moi, je peux vous dire que ça contribue à ce que des gens s'épuisent, parce qu'ils restent devant leur ordi jusqu'à 1h du matin. Après, ils ne peuvent pas faire leur culte personnel, et clac, il y a un système qui s'enclenche, et les gens sont épuisés, fatigués, et ils vont devoir vivre cette expérience, s'ils veulent la vivre, bien sûr. Parce que nous le voulions ou non, quand on est fatigué, ça rejaillit sur quoi? Ça vous est déjà arrivé d'être fatigué? Allez, dites-moi, sur quoi ça rejaillit? Sur le caractère, sur les émotions. Oui ou non? Et voilà. Et le diable, il le sait. Quand vous regardez le repos, ça a été ordonné par Dieu avant la chute. Non mais, il faut réfléchir. Je ne sais pas si... Avant la chute, tout était parfait. Et pourtant, Dieu a voulu que les gens se reposent avant même que le péché n'entre sur la terre, pour vous dire à quel point le repos est quelque chose d'important. Après Élie, après être restauré, acceptez d'être restauré. Sachez vous restaurer. Vous savez, des fois, les gens disent, moi je le vois des fois, « Oh, monsieur Gault, mon psaume préféré, c'est le psaume 23. » Vous ne pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, il est au-dessus de mon lit, il y a un grand poster. Ah bon, mais c'est bien. Mais le psaume 23, le cœur, le pivot du psaume, c'est « Il restaure mon âme. » Et si vous ne vous nourrissez pas de la parole, ce psaume 23, c'est pas vrai, il n'est pas votre psaume. Dieu n'est pas votre berger. Dieu sera votre berger si vous laissez la parole de Dieu restaurer votre âme. Vous voyez, c'est sentimental. Oh, j'aime le psaume 23, oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est magnifique. Oui, c'est vrai. À condition que je laisse la parole de Dieu restaurer mon âme. Alors, physiquement, il est restauré. Alors, qu'est-ce que Dieu lui demande? Après, au verset 7, il se lève, il mange, il boit, et avec la force que lui donne cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Est-ce que c'était une belle expérience, ça? Ravitailler, les anges, les gâteaux. Est-ce que c'est bien de faire des expériences avec Dieu? Mais ça ne règle pas le problème de la communion avec Dieu. Et ça, c'est un des enseignements de cette affaire, c'est que les expériences, si belles soient-elles, ne règlent pas les problèmes de communion avec Dieu. La suite, vous le vérifierez. Il se lève, mange, etc. Là, il entre dans la caverne. Il passe la nuit, et voici, Dieu au bout de... Ça fait 40 jours que ça dure. 40, 42, peut-être un peu plus. Il entre dans la caverne, il y passe la nuit. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Vous pouvez voir ou ne pas voir un reproche. Dieu cherche le contact. dans une réunion comme celle-ci, une prédication. C'est une façon pour Dieu également d'essayer d'avoir le contact avec nous. « Que fais-tu ici ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Bon, la preuve que ce n'est pas réglé, c'est que vous voyez, au verset 14, quand Dieu lui repose la même question, il n'a pas beaucoup avancé. La preuve, il redit la même chose. Regardez verset 14, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Vous voyez, quand on se répète, je ne sais pas si vous savez qu'il y a des gens qui se répètent toujours. C'est pas bon signe, ça. Et je suis resté moi seul, et je ne suis pas meilleur que mes pères. Ne vous comparez jamais. Quand on commence à se comparer aussi aux autres, ne vous comparez jamais à quelqu'un. Jamais. Vous avez vu au début, ouais, je ne suis pas meilleur que mes pères. On ne lui a pas demandé s'il était meilleur que son père. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi on éprouve le besoin de se comparer aux autres? C'est pas bon signe, ça. Vous êtes vous-même. Soyez vous-même. Alors, je devrais être comme lui, ou je devrais être comme elle. Non, comme Jésus, d'accord. Mais ne vous comparez jamais à quelqu'un, ça ne fera pas l'œuvre de Dieu, ça. Croyez-moi, soyez vous-même. Alors, il est restauré, ça ne règle pas le problème de la communion. Il y a des gens qui disent, oh, si je faisais une expérience avec Dieu, ça ne réglera rien du tout. Ça vous montrera que Dieu est bon. Mais ce n'est pas la bonté de Dieu qu'il faut redécouvrir. C'est l'amour de Dieu que Élie avait besoin de redécouvrir. Il est là, à la montagne, à Horeb. Vous savez, c'est là où Dieu a parlé à Moïse. Je ne sais pas tout ce qu'il a dû penser dans la nuit. Je ne sais pas s'il a dormi. Peut-être un peu, parce qu'il avait tellement marché. Mais en tous les cas, il était là où Dieu avait parlé à Moïse. Il devait se dire, tiens, si Dieu pouvait me parler, comme Dieu a parlé à Moïse. C'est là quand même où il y avait eu les éclairs, les tonnerres, les 10 commandements. Enfin, c'était quand même une drôle d'expérience qui s'était passée quelques siècles plus tôt. Mais il est là, peut-être il a posé plein de questions à Dieu. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas tout. L'intimité, la discrétion, Dieu fait qu'on sache juste ce dont on a besoin de savoir. Mais il a dû penser toute la nuit à certaines choses. Mais ce n'est pas les questions d'Élie qui nous intéressent. C'est la question de Dieu qui nous intéresse. Parce qu'elle est marquée. Que fais-tu ici? Dieu a toujours des questions à poser. Vous aimez qu'on vous pose des questions? Vous aimez que le pasteur vous pose des questions? Est-ce que c'est bien les questions? Si Dieu a une question à vous poser, est-ce que c'est intelligent? Que fais-tu ici? Est-ce que Dieu aurait pu lui faire un sermon de 3 pages et des reproches surtout sévères par rapport à son ministère? Oui, il ne l'a pas fait. Juste une question, que fais-tu ici, Élie? À Zacharie, il lui dit, que vois-tu? Et si vous regardez les hommes de Dieu, Dieu a souvent posé des questions toutes simples, mais qui permettent de commencer à dire, mais oui, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, tiens? Qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Je suis à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici ce soir? C'est une question qu'on peut poser. Parce que là, bon, on a le cas de figure, qu'est-ce que tu fais là? C'était pas trop l'habitude d'Élie de ne pas être à sa place, parce que là, il avait fui. Donc il n'était plus à sa place. Ce n'était pas l'habitude. Quand vous voyez Élie, tac, 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 quand il fait quelque chose, c'est que Dieu lui a demandé. Quand il va quelque part, c'est Dieu qui lui a dit. Enfin, quand vous voyez le cursus d'Élie, c'est clair. Il était tout le temps là où Dieu lui demandait d'aller. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, son problème n'est pas réglé. Dieu le sait. Bien sûr que Dieu le sait. Dieu le sait. Mais peut-être que c'était la première fois qu'il allait à un endroit où Dieu ne lui avait rien demandé. Quand il avait été au palais d'Akab, je peux vous dire que c'était conduit par Dieu. Quand il y a eu la sécheresse, en fait, tout ce que je viens de vous dire, bien sûr, c'est la stricte vérité. Alors, de nouveau, il exprime sa colère. C'est pour ça que vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, tu vois, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Ça fait du bien, des fois, de le dire. Oui ou non? Est-ce que ça fait du bien, des fois, ouais? Je dis, Seigneur, tu vois, lisez le livre de Job et vous vous en convaincrez. Seigneur, tu vois, je ne suis pas bien. J'ai besoin de retrouver quelque chose. Et je vous dis, ce n'est pas les expériences qui vont, on va le voir. Sa réponse est vraie. J'ai déployé mon zèle, j'ai fait ce que j'aurais dû faire. Ça ne s'est pas passé comme il aurait aimé que ça se passe. Parce que nous aussi, on aimerait que les choses se passent autrement. Est-ce que vous n'aimeriez pas, vous, que les choses se passent comme ça? Moi, je voudrais que ça se passe comme ça. Moi, j'aimerais, j'ai 8 enfants, c'est pas moi, mais j'ai 8 enfants, je voudrais qu'ils se convertissent les 8 tout de suite, dans la semaine. Est-ce que ça serait bien qu'ils se convertissent, que samedi viennent, tac, dimanche, tous au culte, tous convertis? Est-ce que ça, ça serait bien? Ah ouais, nous, ça serait bien. Nous, on aimerait que les choses se passent à... comme ça. Et c'est pour ça qu'il est déçu. Parce que le feu du ciel est descendu, mais les choses ne se sont pas passées comme il pensait. Lui, il pensait que tout le monde allait craquer, que Jézabel, elle allait tomber et dire oh, « L'Éternel est Dieu, c'est merveilleux !» Jézabel est devenue encore plus enragée. Et ce n'est pas parce que, je le répète, que des expériences sont faites que les gens vont venir à Dieu. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui nous amène à lui, c'est son amour. Et c'est ce qui va se passer. Vous avez vu ce que Dieu va faire? Vous avez vu ce que Dieu fait dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous avez réfléchi à la façon dont Dieu agit? Alors, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit, verset 11, « Sors !» C'est peut-être la parole que vous avez besoin d'entendre. Sortez, restez, hein. Mais je veux dire, sortez, ça veut dire sortez de votre caverne, sortez de cet endroit où vous êtes enfermé, sors, vous savez, sors et tiens-toi dans la montagne. Devant l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Dieu passe. Et voici, devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Quand les rochers se brisent, le vent est fort. Vous ne croyez pas? C'est une autre expérience. Hein? L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, donc le murmure doux et léger, il s'est enveloppé de le visage de son manteau, il est sorti, se tient à l'entrée de la caverne. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qui a amené Élie à sortir et à rechercher la présence de Dieu? C'est pas le tremblement de terre, c'est pas le feu, c'est pas le vent violent. Pourtant, Dieu s'est manifesté. Quand vous regardez la Bible, qu'est-ce qu'il y a eu le jour de la Pentecôte? Il n'y a pas eu un vent violent? Il n'y a pas eu plusieurs fois le tremblement de terre où Dieu s'est manifesté? On voit que Dieu s'est plusieurs fois manifesté de cette façon-là. Mais Élie avait besoin du murmure doux et léger. Et Dieu lui montre que ce n'est pas Jézabel qui commence avec sa petite puissance à elle. Dieu veut toujours nous rappeler que c'est lui le Tout-Puissant. Et c'est ce qu'il lui dit. Il lui parle parce que bon, même s'il n'était pas dans le tremblement de terre, même s'il n'était pas dans ces rochers qui se brisent, dans ce vent, Dieu est en train de lui montrer que c'est lui le Tout-Puissant. Vous savez, je suis en train de préparer une étude sur l'Apocalypse. Et hier, je regardais cette délicatesse de Dieu dans l'Apocalypse par rapport à ceux qui se convertiront pendant ces temps de tribulation. Cette délicatesse, on le voit. Et quand on lit bien la parole de Dieu, on voit ces choses. On voit que Dieu veut nous rappeler qu'il est le Tout-Puissant, mais que nous retrouvons la grâce, la paix, par le murmure doux et léger. Et ce que nous avons besoin, c'est ça. Bon, la démonstration de puissance, tant mieux que Dieu manifeste sa puissance. Est-ce que vous priez pour que Dieu manifeste sa puissance? Oui? Vous pouvez le faire, c'est pas interdit. Mais je peux vous dire que ce n'est pas ça qui amènera les gens à connaître Dieu. À croire en Dieu, oui, peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on dit, oui, quand même, Dieu a fait ça, c'est vrai, c'est quelque... Regardez dans l'Apocalypse, tout ce que Dieu va faire, ils vont blasphémer Dieu comme ce n'est pas possible. Et ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo est la preuve que les gens préfèrent blasphémer qu'avoir la crainte de Dieu, croyez-moi. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui nous amène à connaître Dieu, je le répète, parce que c'est important. Ça nous amène à comprendre que Dieu est vivant, mais ce qu'on a besoin, ce n'est pas de croire que Dieu est vivant. Ce qu'on a besoin, c'est d'être en communion avec lui. Alors, je ne sais pas ce que vous avez besoin. Peut-être que c'est exactement la même chose. Vous avez besoin de sortir de votre caverne et de dire, mais Seigneur, il faut que je m'enveloppe de ta présence. Tu ne me juges pas. C'est beau de savoir que Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger, il est venu pour nous aimer. Oui ou non? Vous savez, les vrais chrétiens, ils sont épargnés de la colère, ils sont épargnés de tout ce qui va se passer dans l'Apocalypse. Ils ne connaîtront pas ces choses-là. Elles sont écrites justement pour que nous restions attachés à Dieu et que nous ne connaissions pas ce qui va se passer quand ça va arriver. Peut-être que vous voulez que Dieu agisse de telle et de telle façon, parce que c'est ce qu'Élie, c'est ce qui a frustré Élie. Ça ne s'est pas passé comme il pensait. D'ailleurs, vous lisez, j'ai déployé mon zèle, et tatati, et tatata, je suis resté seul. Premièrement, ce n'est pas vrai. Il n'était pas seul, puisque Dieu va le dire, mais tu sais, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient peut-être pas de la trempe d'Élie. Peut-être que les chrétiens qui sont à côté de vous, ce sont pas. C'est sûr que ce n'est pas la trempe d'Élie, peut-être, mais c'est quand même des frères et sœurs. Je ne sais pas, celui qui est à côté de vous, c'est peut-être pas un Élie, c'est peut-être pas une, comment dirais-je, une Déborah, mais c'est quand même des frères et sœurs. Vous regardez celui qui est à côté de vous, regardez-le. Allez, Michael, pas forcément. Est-ce que vous dites, tu ressembles pas à Élie, tu ressembles pas à Déborah, mais t'es ma sœur, t'es mon frère dans le Seigneur. Eh ouais. Mais c'est important ça, de pas imposer que les autres soient comme on voudrait. Vous croyez que c'est l'esprit de Christ, ça? Il faudrait que tous les chrétiens... Hier, je discutais avec un autre chrétien qui me disait, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont faibles, les chrétiens d'autrefois. Je lui dis, ben oui, mais on a lu deux textes. Et quand il est dit dans la Bible de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, c'est écrit ou c'est pas écrit? Où c'est que c'est écrit? Romains combien? Romains 14. Ah, c'est bien. Ben on va le lire, on va le lire. Mais c'est important, mes frères et sœurs, parce que nos frustrations viennent souvent du fait qu'on voudrait que les autres changent, que les autres soient comme ça, que les autres deviennent spirituels, etc., etc. C'est pas comme ça que ça marche. Romains chapitre 14, verset 1er, et chapitre 15, verset 1er. Mais Jonathan, tu n'as pas répondu. Romains 14, verset... Mais c'est important, mes frères et sœurs. Est-ce que vous voulez changer les autres ou est-ce que vous voulez vous changer? Romains 14, verset 1er. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Chapitre 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Mais je comprends qu'Élie voulait que la gloire de Dieu se manifeste. Mais ça ne s'est pas passé comme il voulait. Mes frères et sœurs, bien sûr qu'on veut tous que les gens soient transformés, que les gens se convertissent, que les gens se repentent, etc., etc. On aimerait prier, dire, voilà, Seigneur, tu vois, cet homme, il m'a fait du mal, qu'il vienne me demander pardon, et je serai guéri. Vous croyez que c'est pour ça que vous allez être guéri? Vous ne serez pas guéri parce qu'on va venir vous demander pardon, même si c'est bien. Vous serez guéri parce que vous serez de nouveau dans la présence de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur est en train d'enseigner à Élie. Et c'est ce que Dieu voudrait nous enseigner. Ne nous trompons pas par des faux raisonnements. Vous savez, nous on voudrait que les choses soient comme ça, on voudrait que les choses se fassent de cette façon, on voudrait que nos prières soient toutes exaucées. Vous savez, j'ai parlé dernièrement de l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez, nous, on est dans un pays catholique. Il ne faut pas l'oublier. Et dans un pays catholique, on nous a imposé, sans qu'on s'en rende compte, certaines choses, de la même manière que les journalistes font leur mauvais boulot aujourd'hui et nous imposent certaines façons de penser. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, c'est le but. Mais les gens, ils veulent, moi je le vois, ils veulent des formules. Regardez comment ils veulent des prières toutes faites. Moi ça m'est arrivé, monsieur Gault, écrivez-moi une prière. Je veux prier, je me rappelle la première fois que je l'ai fait. Moi, bête comme tout, je prends un crayon et je commence à faire une, à aider la personne. Et puis, je prends le papier, je le déchire. Non, écoutez, non. Mais c'est pour vous dire comment on est. On veut des formules, mais notre cœur, il n'est pas fait pour des formules. Notre cœur, il est fait pour la grâce. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. On n'est pas fait pour des formules. C'est pour ça que la religion, elle est diabolique. Et que là, il faut qu'on ait la grâce de Dieu. Vous comprenez? Regardez ce qu'elle est devenue, la religion. Regardez la religion, la chrétienté apostate dans l'Apocalypse. Vous avez vu? C'est un instrument entre les mains du diable. Parce que justement, les gens, ils veulent des formules. Mes frères et sœurs, votre cœur, il est fait pour la grâce de Dieu. C'est pour ça que Job s'en est sorti. C'est pour ça que Élie s'en est sorti. C'est pour ça que ces histoires, elles sont là dans la parole de Dieu. Dieu a un plan pour Élie. Dieu a un plan pour Job. Dieu a un plan pour toi. Ah bon? Mais t'as vu dans quel monde on est? Dieu a un plan pour moi? Eh bien oui. C'est ça l'enseignement. Dieu a toujours un plan. Il a toujours des projets. Peut-être vous vous dites, mais moi j'ai projet aujourd'hui. Eh bien d'accord, projet. Écoutez-moi bien. Dieu, il a un plan pour chacun. Des projets de paix. Parce qu'on est encore dans la grâce. Malgré que ça cartonne grave autour, Dieu a des projets de paix. C'est écrit où? Ah, je vois que c'est bien. Jérémie 29, eh bien, on va le lire. Allez, Jérémie 29. Mais c'est important, Dieu avait un plan pour Élie. Élie voulait mourir. Il voulait mourir, il en avait marre, reprends-moi, ça en est assez. Vous savez, il fait le vide, il laisse son serviteur, on n'en a pas parlé. De se retrouver seul, c'est pas bon ça. C'est pas bon de se retrouver tout seul. Pour chercher Dieu, oui. Mais en fin de compte, vous n'êtes pas seul. Mais quand on fait le vide, c'est pas bon. Croyez-moi. Jérémie 29, c'est bien Jonathan. Par contre, ça aurait été mieux si tu m'avais donné le verset. Verset 11. C'est pour ça, c'est pas si bien que ça. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Ils étaient en captivité. C'est clair qu'ils avaient besoin de cette parole. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu leur montre qu'il a des projets, il a des plans. Dieu parle à Élie, il lui parle, voilà. Regardez ce qu'il lui dit. Verset 16, on revient à un roi. Verset 19. Vous savez, c'est important que vous sachiez qu'il y a des projets. Est-ce que vous savez que Dieu a des projets pour vous? Il y a eu le passé. Votre passé, il est bien ou il n'est pas bien? Comment vous le notez, votre passé? Sur 20. Ça dépend. Chaque année, si vous la notiez, il y a des années, c'est 3 sur 20, d'autres, c'est 15. Comment c'est? Le passé, c'est bien ou c'est pas bien le passé? Il y a de tout. L'avenir, l'espérance, est-ce que c'est bien? Mais le présent, c'est le présent. Aujourd'hui, 12 mai 2015, Seigneur te dit qu'il y a des projets et que tu n'as pas besoin de voir de manifestation de puissance et de voir toutes tes prières exaucées comme tu le voudrais, mais tu as besoin de t'envelopper de sa présence et de comprendre que les projets, ça correspond à des choses que Dieu va faire. Regardez, il lui dit au verset 16, tu oindras aussi Jéhu. Ah non, verset 15. Je ne voulais pas prendre le verset 15 pour finir par la première partie du verset 15. Va, reprendre ton chemin. Qu'est-ce qu'il y a? Les trois prochains mots, c'est quoi? C'est quoi les trois prochains mots? Vous ne m'aidez pas beaucoup. Hein? Ah. Reprends le chemin. Aïe, 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 aïe. Par où il faut qu'il passe? Reprends le chemin par le désert. Eh oui, eh oui, ça peut arriver. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, tu vas jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé à Damas, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, Abdabel Maïola, pour prophète à ta place. Et vous lirez la suite, bien sûr, ça s'est passé exactement. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui fait aucun reproche. Écoute, tu reprends ton chemin. Et sache que tu dois mener l'onction sur les autres. Ça ne vous intéresse pas d'amener la bénédiction sur les autres? Non? Tu vas oindre tel homme. En plus, c'est des rois, des prophètes. Dieu lui dit, mais je n'ai pas fini. N'oubliez pas qu'il voulait mourir. En plus, ne lui dis pas tout, parce qu'en plus, il aurait pu lui dire, écoute Élie, tu me demandes une chose, mais ça me fait sourire. Parce qu'en plus, tu fais partie de ce... Tu vas même pas mourir. Alors franchement, c'est presque comique. Non, est-ce qu'il aurait pu le lui dire? Écoute Élie, je vais te dire un truc sous cape. Je vais te dire un truc. Écoute, ça va pas aller. Tu vas même pas mourir. Il représente les chrétiens. Et je pense que ça représente beaucoup notre génération. Mes frères et sœurs, peut-être que nous allons même pas passer par la mort, que le Seigneur va nous enlever. Mais Dieu a des projets. Ce matin, je lisais dans l'épître de Jean et dans l'évangile de Jean, Toutes les fois où Dieu dit, je vous ai dit ces choses, c'est impressionnant, afin que vous ayez la paix. Je vous ai dit ces choses, afin que ceci. Je vous ai dit ces choses, je vous écris ces choses. On voit que Dieu n'arrête pas de nous dire les choses. Je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. Prenez courage, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Parce que le diable, il veut nous décourager. Alors mes frères, si Dieu avait un plan pour Élie, Dieu a un plan pour vous. Est-ce que ce soir, vous êtes capable de dire, j'accepte, quel est ton plan, Seigneur? Tu n'as pas exaucé toutes mes prières, c'est vrai. Eh bien, ne soyez pas frustrés, ne vous énervez pas, ne fuyez pas. Dites, voilà, je veux aimer l'Église. Est-ce que c'est important d'aimer l'Église? Eh oui, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et c'est important d'aimer les frères et les sœurs. Vous avez des frères et sœurs? Vous avez un frère là en face de vous? Vous l'aimez, votre frère? Est-ce que vous aimez l'Église? Eh bien, c'est ça. Quand il y a des chrétiens qui sont en vrac, mais vraiment en vrac avec un V majuscule, parce qu'ils n'aiment pas l'Église. Et quand vous n'aimez pas l'Église, vous vous mettez contre Dieu. C'est imparable. Pourquoi? Parce que l'Église, elle est à qui? Elle est à Jésus. C'est lui qui l'a bâtie. Et il l'a bâtie, il ne l'a pas bâtie avec le sang des autres. Je ne sais plus qui c'est, une fois qu'il compare Alexandre le Grand avec Jésus, j'ai dit, il est fou. Parce que oui, il a bâti des royaumes, mais avec le sang des autres. Tandis que Jésus, il a bâti un royaume avec son sang. Il a versé son propre sang. On ne va pas comparer Alexandre le Grand avec Jésus. Je vous assure qu'il y en a qui sont vraiment fatigués. C'est le cas de le dire. Mes frères et sœurs, Jésus aime l'Église. Nous aimons l'Église. Nous avons des projets. Je ne sais pas ce que Dieu va vous demander de faire. Vous ne savez pas, vous, qui c'est que Dieu va vous demander de bénir. Vous le savez? Vous ne le savez pas. Mais ça vaut la peine de dire, je veux, mais Seigneur, c'est vrai, fais-moi faire des expériences, d'accord. Mais apprends-moi de nouveau la communion avec toi, Seigneur. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il avait besoin. Il n'était pas dans le feu, pas dans le vent, pas dans la tempête. Il était dans le murmure doux et léger. Et Jésus l'a dit, venez à moi, qui suis doux et humble de cœur, et je vous donnerai du repos. Et même s'il a fallu qu'il repasse un peu de désert, il est reparti et il a amené la bénédiction sur les autres. Mes frères et sœurs, si vous amenez la bénédiction sur les autres, ça va plaire au Seigneur. C'est bien de bénir les autres. Et ce frère, hier, au début, il était pas content. Puis à la fin, il dit, mais je comprends combien je dois bénir mon épouse. Parce que vous savez, on n'est pas tous pareils. Dieu va me demander une chose à moi. Est-ce qu'il va demander la même chose à mon épouse? Est-ce que Isabelle doit être un clone de Gérard? Ou est-ce qu'Isabelle doit être Isabelle et que Gérard doit être Gérard? C'est le minimum. Chacun doit être soi-même. Alors on va terminer en lisant un verset, parce que j'avais à cœur qu'on le lise dans les Colossiens. Dans les Colossiens, ça résume bien toute la prédication. Dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 14, il y a ce verset qui exprime bien la pensée de ce soir. Parce qu'on veut faire des progrès. Élie, c'est quelqu'un, Élie. Je vous assure. Hein. Et pourtant, vous voyez, ce quelqu'un, il a eu son moment de difficile. Dieu ne le lui reproche pas. Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Vous avez vu ce que c'est l'amour? Comment c'est expliqué là dans ce verset? Qui est le lien de quoi? Moi, vous m'aidez pas. Moi, je ne parle plus si vous me répondez. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Est-ce que vous réalisez la portée de ce verset? Seigneur, je veux être enveloppé de ton amour. Demain, mon culte, je veux être enveloppé de ton amour. Les gens que je vais côtoyer, les personnes que je vais aborder, peut-être je ne parlerai pas. Mais je veux témoigner de ton amour. C'est ça qu'il y avait besoin. La manifestation de l'amour de Dieu. La puissance, le feu qui descend du ciel. C'est clair que c'était bien. Mais voyez, c'est pas ça qui a fait l'affaire. L'affaire, c'est la communion. Et tous les textes dans la Bible, même si Dieu a une pédagogie qui nous dépasse, c'est clair. Parce que c'est quand même le grand pédagogue, le Seigneur. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Moi, j'ai failli ce soir prêcher sur la façon dont Dieu s'était approché de Jacob quand il fuyait. J'ai opté pour ce texte. Mais quand même, plus vous étudiez la Bible, et plus vous voyez cette pédagogie. Comment Dieu va-t-il me parler? Mais est-ce que je suis prêt à l'écouter? Est-ce que je suis prêt à écouter? Comment vous vivez vos cultes personnels? Alors, vous savez ce qu'on va faire? Bien, on va lui demander de nous aider. Vous êtes d'accord qu'on ferme les yeux? Un instant. Vous savez, Dieu savait comment parler à Élie. Dieu savait comment le rejoindre, et c'est pareil pour nous. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait où vous êtes. Il n'a pas besoin d'un GPS. Dieu, il savait, il n'a pas. L'ange Gabriel, il ne courait pas partout dans Bethléem, dans Nazareth pour chercher Marie. Il savait où elle habitait. Dieu sait où vous habitez. Alors on se recueille quelques instants. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu vous aime. Hein. Il vous aime, le Seigneur. Il ne vous juge pas. Je ne sais pas si vous en êtes aux prières d'Élie ou aux prières plus costauds de Job. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Dieu sait. Et si vous le laissez s'approcher, si vous le laissez vous restaurer, si vous l'écoutez, vous verrez ses projets se manifester tout à nouveau. Notre Père, nous te remercions pour ta tendresse, pour ta patience, pour ta pédagogie. Nous te remercions d'avoir laissé ces histoires dans ta parole pour nous rassurer lorsque nous aussi on en a assez. Vraiment merci de nous avoir encore montré comment tu as su fortifier le corps de cet homme et afin de fortifier son âme, afin de lui montrer tout à nouveau les projets d'onction. Seigneur, tu vois, nous sommes venus dans ta maison. Nous t'avons dit tout à l'heure combien, oui, nous te remercions pour ta parole au travers du chant. Mais je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, afin que nous redécouvrions une plus grande dimension de la communion avec toi. Oui, merci pour toutes les fois où tu manifestes ta puissance. Mais nous comprenons que ce dont nous avons besoin, c'est de ta grâce, de ton amour, qui nous prend dans tes bras. Tu le dis dans ta parole, que comme une mère prend son enfant sur ses genoux, tu nous prendras dans tes bras. Alors Seigneur, que dans cette âme de haine, de méchanceté, de ténèbres, nous restions à l'abri. Et si tu nous demandes de sortir pour aller amener la bénédiction, eh bien nous allons le faire, Seigneur. Aide-nous dans les prochaines journées à suivre, les gens que nous allons côtoyer, nos enfants, nos voisins, les gens avec qui nous pouvons travailler, ce que nous verrons peut-être qu'une fois dans notre vie, que par nos paroles ou par notre silence, nous puissions être ces témoins de l'amour que tu peux déverser dans notre cœur. Exauce cette prière, Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen.